pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
J'avais posé une annonce assez simple. J'avais mis studio indépendant dans une maison, salle d'eau, équipement, enfin mini studio 15 mètres carrés. J'ai eu rapidement beaucoup de demandes. J'en ai eu pour quelques jours, une petite dizaine au moins. J'avais pris le parti de répondre à tout le monde, parce que je me dis que ces gens-là, ils doivent passer leur temps à prendre des râteaux et avoir zéro réponse sur rien, donc de toute façon, même pour leur dire non, ça me semblait utile de leur répondre. Et je m'étais fixé une critère assez simple, c'était de dire, je vais pas faire un casting ni d'âge, ni d'origine, ni de niveau social, ni quoi que ce soit. Je vais prendre deux critères simples, l'ordre de la demande, et le fait que les personnes soient dans un projet de vie normal et que ce soit pas des personnes trop désocialisées, parce que j'avais pas vocation à devenir éducateur spécialisé, assistante sociale ou prendre en charge de façon lourde des personnes dépendantes ou peu autonomes. Et puis pour ce qui est du 115 du particulier, le contact que j'ai eu avec Bran Dussenon m'a donné envie d'aller de l'avant, et cette question très pratique d'une mise en relation directe par le site internet, en dehors des systèmes sociaux un peu lourds, cette idée-là, plus simple, plus directe, plus fluide, me plaisait bien.
Au départ, c'est un groupe Facebook créé en 2012 par un ancien SDF pour trouver des abris temporaires chez des particuliers à tous les refoulés du 115, le numéro d'urgence, hélas saturé, que l'on appelle quand on ne sait plus où dormir. Au départ, le groupe met simplement en relation par Internet les bénévoles et les demandeurs. Mais face au succès, le 115 du particulier étend son action aux démarches administratives et devient une association 1901. Le groupe Facebook compte aujourd'hui 1600 membres et l'association a son propre site. Même s'il est difficile de chiffrer le nombre de personnes hébergées grâce à ce système, un des fondateurs, Bran Dussenon, estime qu'entre 9 et 10 000 aides de nature différente ont été fournies en un an. C'est le genre d'initiative qui, même si elle connaît quelques ratés, ne peut qu'améliorer la vie et augmenter de manière significative la quantité de bons sentiments, d'énergie constructive et de solidarité dans un monde en crise. Pour l'heure, nous sommes donc en lointaine banlieue et en échange du studio qu'il prête à des SDF et autres travailleurs pauvres, cet homme ne demande absolument rien, en tout cas jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, pour une émission que nous rediffusons à l'occasion du début de la trêve hivernale, aujourd'hui, durant laquelle les locataires ne peuvent plus être expulsés et des places d'hébergement supplémentaires sont ouvertes pour les SDF et pour l'hiver. Vous écoutez France Culture, c'est un reportage de Jérôme Sandelard.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Là, on est à Montmorency, en grande banlieue parisienne. Il y a un monsieur qui arrive, les avions qui passent au-dessus. Bonjour.
Bonjour. Entrez, Jérôme. Entrez.
C'est une belle grande maison.
Ouais, c'est un bâtiment industriel qui appartenait à la Compagnie des Eaux et que j'ai réhabilité pour en faire une maison d'habitation.
Vous pouvez faire le tour ?
Alors, bah, très rapidement, le rez-de-chaussée fait un grand séjour ouvert avec au bout mon espace de bureau pour mon activité. Et puis la salle à manger avec la cuisine ouverte. La maison est conçue avec quatre chambres en haut qui, à l'époque où j'avais une famille complète, me permettaient de loger tout le monde. Voilà, donc il y a un look un peu moderne avec, et architecturé avec cette passerelle là. Une première chambre qui est la chambre de mon fils, qui est un ado, qui a 16 ans, qui est là la moitié du temps, quand il n'est pas chez sa maman. C'est une maison que j'ai fait intégralement à partir du bâtiment brut. Et donc je l'aime bien, j'y suis attaché, et même si c'est un peu grand, le cadre, la bordure de la forêt, l'environnement, tout ça fait que je suis très, très content d'être là. Je suis seul ici depuis 2 ans. Alors, sauf que depuis quelques mois, j'accueille, dans le cadre du 115 du particulier, des personnes en recherche de logement, ce qu'on appelle des SDF, puisque du coup, j'avais dans le jardin un petit studio extérieur et totalement indépendant. J'ai découvert l'existence de ce site internet par hasard, à l'occasion d'un sujet télé au mois de janvier, en pleine vague de froid. Du coup, de façon assez impulsive, je me suis dit, tiens, c'est une façon un peu concrète et directe de rendre service. Très rapidement, j'ai passé une annonce et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Le premier contact avec le 115 et réellement la découverte pour moi, c'était, le 15 janvier et la première personne est arrivée le 20 janvier. Pour ce qui est d'Hassan, la première personne que j'ai accueillie, premier contact, première rencontre, 3 jours après, elle était là. Voilà, donc du coup, ça m'a bougé un peu pour finaliser quelques agencements, transformer ce lieu qui était un lieu un peu mort en un lieu un peu plus habité et vivant, faire les petits travaux de finition. Et puis, il est arrivé un dimanche soir, tranquillement, avec son petit sac, et puis il s'est installé. La cohabitation s'est super bien passée. Dès le premier soir, on a dîné tous les trois ensemble. Il y avait mon fils à ce moment-là, le premier jour où il est arrivé. On a passé un petit moment, il a pris ses petites affaires, sa couette, son drap, et s'est installé là-bas. Et donc du coup, cette première expérience a super bien marché. Spontanément, il m'a tenu au courant de l'avancée de ses projets, de sa recherche de logement en cours. Et puis, on avait fixé une durée ensemble, on avait fixé une durée de 2 mois... En plaisantant, je lui disais que c'était au 21 mars, à la fin de la trêve hivernale. Entre-temps, ces démarches ont abouti et le 21 mars, il avait trouvé, ou le 30 mars précisément, il avait trouvé un logement et il est installé maintenant dans un studio ou un petit 2 pièces du côté de Compiègne. Donc j'ai eu de ses nouvelles récemment, tout va bien.
Et pour vous, c'était important de fixer une échéance comme ça ?
Pour moi, cette notion de la durée est importante parce que j'avais en tête, et c'est peut-être lié aussi à un bout de mon parcours professionnel, il y a quelques décennies, j'étais travailleur social et où on avait souvent besoin de fixer un cadre et une durée pour maintenir une dynamique de projet. Mais là, même si c'est tout à fait différent et même si je suis pas travailleur social, il me semblait intéressant et utile de fixer une durée, peut-être aussi par prudence pour moi, si toutefois ça devait mal se passer, avoir au bout du tunnel, entre guillemets, si ça devenait un tunnel, la sortie qui se profilait. Donc j'avais posé ces 2 mois la première fois et j'ai renouvelé avec Mohamed, la personne que j'accueille là en ce moment, j'ai renouvelé c'est les mêmes modalités.
Vous croyez qu'il est là aujourd'hui ?
Mohamed, j'en sais rien, on peut aller voir, normalement il travaille, mais je crois qu'aujourd'hui il avait un rendez-vous de boulot, donc peut-être qu'il est chez lui. On va passer par la terrasse. Voilà. On va voir s'il est là.
Bonjour Pascal.
Bonjour Mohamed.
Ça va, vous allez bien ?
Ouais, très bien, ça me fait plaisir de vous voir.
Merci, moi aussi.
On entre ?
Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ?
Moi j'étais sur internet, je regardais un peu les annonces, emploi.
Cherchez du boulot ?
Oui. Enfin, je fais de l'intérim en ce moment, mais bon, pour systématiquement, quand je rentre, je regarde un peu les annonces qui s'est publié et tout ça.
Donc c'est ici votre petit nid ?
C'est ça. Sympathique, hein ?
Au départ, c'était un endroit tout vieillot, de stockage, Et puis j'ai transformé ça en un petit studio. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer cet endroit, d'y dormir, mais je pense qu'on doit y être pas mal.
Oui. On y est très très bien, sérieusement, on est très très bien, très très bien chauffé en plus.
Vous étiez intimidé le jour où vous êtes arrivé ici pour rencontrer Pascal ou...
Ouais, parce que bon, je l'avais seulement eu au téléphone. On s'était vu avant,
La première fois, on avait dîné.
Voilà.
Hein, on avait dîné à la maison. J'avais fait, j'avais fait une tarte à l'oignon parce que la fois d'avant, j'avais fait une quiche. Je suis un spécialiste des tartes en tout genre, et j'avais fait une quiche et la personne précédente mangeait pas de porc. Donc du coup là, je me suis dit, vu qu'il s'appelle Mohamed, je me suis dit, je vais pas faire deux fois la même boulette. Donc là, je vais faire une tarte à l'oignon.
Ça m'avait fait chaud au cœur aussi, ça m'avait vraiment... C'est déjà, premièrement, personne, il m'héberge gratuitement et tout ça, et en plus, le premier soir, il m'invite à manger, donc... ça touche, quoi. Ça touche.
Non, mais c'est bien, cette première rencontre, il y avait Lucas, on avait papoté...
Ouais, en plus, il y avait son fils, donc...
On a papoté un peu, ouais, c'était bien.
Donc voilà. Mais là, je suis bien, je suis très bien, ça se passe bien. Je tire mon chapeau à Pascal aussi, car c'est vraiment très, 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 très gentil de donner la main comme ça. Ça fait chaud au cœur.
Ça fait combien de temps que vous êtes là?
Samedi, ça fera ma 6e semaine que je suis là. Donc, le problème, c'est que j'avais une sous-location. Et du jour au lendemain, j'ai dû partir. Derrière, pour avoir un appartement du jour au lendemain, c'est très, très, très difficile. Malgré qu'on travaille ou qu'on ait des revenus. Donc, grâce au 115, on m'a envoyé à la Maison de l'Amitié. Et la Maison de l'Amitié qui a fait le nécessaire pour me faire rencontrer Pascal.
Parce qu'en fait, il y a une telle demande, un nombre tellement important de personnes dans le besoin, que les structures sociales qui ont vocation première à proposer des solutions d'accueil temporaire d'urgence ou proposer des logements sont débordées. Mais c'est intéressant de mesurer combien on est en défaut de logement. On arrive à ce problème social complètement dingue des travailleurs pauvres ou des travailleurs sans logement. On est au 21e siècle, on est dans une situation pire qu'au Moyen-Âge où le serf, il avait le logement assuré par le notable du coin. Là, on revient à un truc où on a beau avoir un travail, on n'a pas de logement, quoi. C'est un peu comme la préhistoire, enfin, les besoins fondamentaux ne sont même pas pourvus, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
C'est la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation?
Oui, c'est la première fois, oui. Première fois, parce que j'ai toujours eu des logements, j'ai toujours travaillé. C'est très difficile, même de passer par des agences avec ce qu'ils vous demandent. C'est très, très, très difficile d'avoir des logements. Le problème, c'est qu'on va aller dans les agences. Là, vous leur dites que vous êtes intérimaire. Alors, ils vont vous prendre votre dossier, bien sûr. Ils vont prendre votre dossier, mais alors, ils vont vous mettre sur la gauche. C'est même pas la peine. Plus encore, même quand vous gagnez vos trois fois l'équivalent de votre loyer, on vous demande un garant. Donc les garants, faut aussi les trouver. Donc c'est pas facile.
Et ça, pour vous, c'était pas possible?
Non, c'était pas possible. Ça, c'est sûr, c'était pas possible. Sauf au jour d'aujourd'hui, j'ai annoncé un peu dimanche à Pascal. Normalement, si tout se passe bien, le 30 juin, je vais sûrement avoir un 35 mètres carrés avec ça fait un peu un F2, c'est studio mais aménagé, à 460 €. Là, par contre, là, c'est du bouche à oreille, hein. C'est pas une agence immobilière. Donc voilà, quoi, c'est réconfortant. Merci Pascal encore.
Je suis strictement pour rien. Dès que vous avez du coup une confirmation définitive de ce logement, moi, on en reparle.
Voilà. Je vous coupe, mais normalement, samedi ou dimanche, là, je travaille avec ma collègue. Normalement, j'ai la confirmation.
Vous travaillez dans quel domaine?
Dans la cuisine. Je suis cuisinier, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai toujours travaillé, donc... L'âge de 16 ans, j'ai été faire mon apprentissage, j'ai eu mon CAP, mon BEP, j'ai eu ma mention traiteur, et après je suis descendu sur la Côte d'Azur, j'ai fait mes saisons pendant 6 ans, donc après je suis venu sur Paris, et voilà, depuis 2008 je suis à Paris.
Et vous travaillez où en ce moment?
Dans un hôpital. On fait du self, et puis pour les patients. J'ai attaqué, ça fait 15 jours là-bas. On m'a fait une période d'essai de 2 jours. Et là, la mission va jusqu'au 6 juin. Et après le 6 juin, j'attaque Roland-Garros. Ouais, ça y est, mon badge est fait. Ils ont pris ma photo. Il n'y a plus qu'à faire la visite médicale.
Mohamed m'a proposé, enfin non, c'est pas lui qui m'a proposé, c'est moi qui lui ai demandé d'avoir un passe-droit pour pouvoir rentrer au village. Voilà, il y a une période de ma vie où j'avais des accès tous les ans à Roland-Garros. Ça, c'était la période un peu faste. Et là, j'ai moins d'accès. Donc, du coup, c'est Mohamed qui va me dépanner. Comme quoi, moi, je lui propose un logement et lui va me faire rentrer à Roland-Garros. C'est une bonne affaire.
Est-ce que vous lui demandez une contrepartie à Mohamed ou pas?
Aucune. Ça m'a même pas traversé l'esprit. J'ai pas besoin d'abord que de contrepartie, ni financière, ni matérielle. Alors financière, je pourrais dire, ce truc-là, je peux le louer 300, 400 euros, j'en sais rien. Même si ma situation professionnelle en ce moment n'est pas formidable, entre guillemets, je suis pas à 300 euros par mois. Et donc du coup, c'est pas la relation que je veux instaurer avec les personnes que je dépanne. Après, qu'est-ce que je pourrais lui demander de tondre la pelouse, de faire quoi, d'arroser les plantes, voilà. Donc je fais mes petits bricolages dans ma maison, je m'occupe de la maison. Puis Mohamed, il est là chez lui, il a sa vie, il a son boulot, voilà. Non, c'est pas du tout ma démarche.
Et vous rentrez là tous les soirs ou parfois vous dormez pas là?
Il y a des soirs où c'est que je rentre pas là parce que les transports ne me permettent pas de rentrer là. Parce que c'est un peu, c'est rien à voir avec Pascal, c'est pas de sa faute d'ailleurs. Mais il y a des soirs en fait j'ai des plannings qui sont un peu bizarres on va dire. Je fais pas mal d'extra, je fais des trucs à gauche à droite en plus.
Voilà. Quel genre de...
Extra, cuisinier, je suis cuisinier traiteur de métier. Donc je reste dans ma branche. Je vais pas aller faire du carrelage, je sais pas le faire. Donc je reste dans ma branche.
Donc il ne peut pas me rendre service, parce que moi c'est plutôt du carrelage que j'ai à faire chez moi. Donc.
Je suis quand même très content, je sais que quand vous finissez votre journée de travail, vous savez où vous allez et vous savez où vous rentrez. Au moins où vous l'avez, où vous reposez, pour être en forme le lendemain.
Ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, les solutions alternatives de foyer d'urgence, etc., c'est un truc que vous n'avez jamais voulu utiliser, la maison de Nanterre ou autre
voilà,
foyer.
Voilà, le Chapsa.
Foyer d'hébergement d'urgence.
Ouais. Non, parce que c'est vraiment... je sais, hein, c'est mieux que rien, mais non, je préfère... quitte à payer une chambre d'hôtel 60 euros, je la paye 60 euros, et voilà, tant pis. Même s'il vous reste rien à la fin du mois, c'est pas grave. Mais j'ai vu ce que c'était la Chapsa, parce que j'y étais faire un tour, c'est très très dur. C'est vraiment catastrophique.
Ces lieux où on accueille les personnes qui sont SDF, c'est ça, qui sont à la rue.
Vraiment, voilà, les mecs, ça fait... ils sont dans la rue, quoi, du matin au soir, pas de revenus, c'est vraiment...
C'est-à-dire qu'on est ramassé le soir, on arrive en bus, et le lendemain matin, après le petit déjeuner, on s'en va. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a une vie à peu près posée comme vous sur le plan du boulot, parce que somme toute, à part le logement, tout va bien, quoi.
Ouais, bon, heureusement.
Mais heureusement. Voilà, c'est ça qui est... c'est pas adapté, quoi. Ça correspond pas à votre profil.
Il n'y a personne de votre famille qui pouvait vous aider ici, Mohamed ?
Non, ici à Paris, je suis tout seul. Je suis tout seul, voilà, j'ai toujours été tout seul ici, donc... je suis un solitaire. Mais bon, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est par expérience que je suis tout seul, c'est moi qui me suis mis dans la tête que je reste tout seul, quoi. Bon, après, quand je sors, je rencontre des gens, je connais du monde, hein, y a pas de souci, hein. Je sais où les rencontrer, c'est pas moi qui les appelle pour leur dire on fait ci, on fait ça. Je sais que je les trouverai là-bas, voilà. On fait notre soirée, chacun rentre chez soi. C'est très très bien comme ça.
Est-ce que vous avez eu de mauvaises expériences ?
Ouais, beaucoup. Vous savez, c'est vous vous retrouvez comme dans une forêt, où c'est que tout le monde se cache derrière un arbre. Et vous vous retrouvez tout seul. C'est comme ça. Sans se casser la gueule qu'on apprend à marcher. Hein.
Et votre famille, alors, qu'est-ce qu'elle sait de votre situation ?
Elle ne sait pas grand-chose, j'ai jamais parlé de ma situation à ma famille. Même si je les ai au téléphone, je leur dis que tout va bien, pour pas qu'ils se fassent de soucis pour moi. Je pense qu'ils le prendraient pas bien, quoi. Qu'ils seraient pas bien dans leur peau, donc vaut mieux les rassurer comme ça.
C'est par fierté ?
Ouais, il y a un peu de fierté aussi. Ouais, il y a un peu de fierté.
Et alors, est-ce que vous feriez pareil si vous étiez dans la même... situation que Pascal.
Ah bon, au jour d'aujourd'hui, c'est clair, j'ai pas les moyens d'avoir. Je me dis déjà un truc, franchement, pour cet hiver, si je suis bien installé et tout ça, après le travail, pourquoi aller pas faire du bénévolat avec les marottes ? J'y pense beaucoup. On m'a donné un coup de main, pourquoi pas donner la main aussi?
Cuisine, Pascal. Votre fils, il a réagi comment, lui ?
Mon fils, il a été très, très sensible à la démarche, très curieux et très avenant et très ouvert d'esprit sur le sujet. Et je pense un peu, si ce n'est fier, en tout cas content que son père ait pu faire ça.
J'ai remarqué que vous voyez Mohamed.
Je le vouvoie parce que, alors que ça pourrait être pour moi dans mon parcours professionnel et dans mes relations un tutoiement plutôt naturel et de rigueur, pour moi c'est une façon de garder une forme de distance et de rester dans une relation, même si elle est chaleureuse et attentionnée, une relation relativement neutre et sans être trop dans un affectif que le tutoiement induit. Donc j'ai opté pour ce système-là et je trouve que c'est bien. Ça nous place l'un et l'autre dans une relation d'attention et de respect mutuel.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
J'ai commencé comme travailleur social, comme éducateur spécialisé, et puis j'ai quitté ce secteur-là pour reprendre une formation en communication qui m'a permis de rentrer dans une grosse association de lutte contre le sida. Puis ensuite, je suis rentré dans une grosse agence de communication pour faire de l'événement. Avec cette grosse agence, ça s'est mal terminé. À l'occasion d'un changement de direction, parmi d'autres personnes un peu âgées, qu'on appelle seniors, plus de 50 ans, généralement pas trop mal payées, j'ai été très brutalement débarqué. Je dis en plaisantant maintenant, un peu comme dans une série américaine, mais en une heure de temps, l'interdiction de reprendre après un entretien avec la DRH, l'interdiction de retourner dans son bureau, de parler avec ses anciens collègues, de pouvoir utiliser son adresse professionnelle, d'entretenir ses contacts avec ses anciens clients, sur un motif que la justice tranchera, mais en aucun cas un motif qui justifiait un traitement aussi brutal. J'ai vécu comme une grosse injustice cette mise au banc de l'agence, au banc de l'entreprise et au banc de la vie professionnelle aussi, puisque j'avais aussi un statut social qui allait avec. J'avais un titre pompeux de directeur associé. Du jour au lendemain, tout ça se retrouve mis à zéro, voilà.
C'est la première fois que vous accueillez temporairement des gens à la rue ou...
C'est tout à fait la première fois, j'ai jamais fait auparavant. Ça rejoint ce qu'on vient de se dire, hein, c'est que tout d'un coup, le sens ou la dimension d'utilité sociale qui prend une place plus importante pour moi. Donc j'aurais pu faire des maraudes, j'ai fait les journées des collectes alimentaires dans les supermarchés... Et puis c'est aussi une question de la fragilité. La fragilité, c'est pas tant ça le problème, c'est plutôt les insuffisances du système par rapport aux questions de fragilité des gens. Ça me concerne. Donc voilà, c'est une façon que j'ai trouvé de répondre, d'intervenir à ma façon. Les deux expériences que je viens de faire sont pour moi une chose simple et je vais prolonger cette expérience. Thank you.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le 115 du Particulier, un reportage de Jérôme Sandelard, diffusé pour la première fois le 27 mai 2013. Il était réalisé par Annabelle Brouard, Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Valérie Borst lui donne un sérieux coup de main de temps en temps, surtout quand elle est en vacances. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, des idées, des témoignages, c'est sur notre site franceculture.fr. À la page des Pieds sur Terre, vous trouverez des tas d'informations, de photographies, de bibliographies passionnantes. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter. On vous y attend nombreux également.